Chapitre 7. Le père. La petite fille est dans l'escalier de pierre qui mène aux chambres. Quelque chose de grave se passe là-haut. Elle entend des bruits confus, des cris étouffés. Arrêtée à mi-chemin, elle hésite à poursuivre sa montée. Elle ne peut pas non plus redescendre. Une paralysie hystérique l'arrive à la marche. Un tourment d'incertitude, une peur violente et sourde. Elle est clouée sur place. Elle est accrochée à la rampe d'une main. Elle ose à peine respirer. L'autre main, comme un animal pris au piège, est crispée dans la poche de son sarrau d'écolière. Papa est très malade. Papa est à l'agonie. Papa va peut-être à l'instant même mourir. Et c'est une abominable angoisse, une douleur si incompréhensible que Claire ne peut pas se mesurer à elle. Tout est incompréhensible, d'ailleurs, entre ce père et sa propre vie. Depuis le début, Claire n'a pas encore 12 ans. D'aussi loin qu'elle se souvienne, ce qui est le plus remarquable dans leur rapport, c'est l'absence. Et aussi ce sentiment inquiétant quand le père est là, qu'il est un étranger, un monsieur dont elle ignore tout, qui ne montre de lui qu'une image indéchiffrable et un peu effrayante. Papa, même quand il sourit ou qu'on le croit heureux, se met subitement en colère, et ses colères sont d'origine tout à fait inconnue. Maman alors soupire et dit « Mon pauvre Paul !» comme si elle avait profondément pitié de lui. « Arrête, Maria, arrête !» crie alors toujours Paul, et il sort en claquant la porte. Si bien que Claire pense que son père n'est qu'un homme misérable, frappé d'une tare, d'une maladie que sa mère seule connaît. Elle rêve souvent, d'ailleurs, qu'il vient mendier à la porte de la maison. Il est mal vêtu, décoiffé, il a l'air sournois et également affreusement triste. Et elle lui crie « Va-t'en, je ne veux plus te voir, j'ai honte, j'ai peur, tu es un mauvais homme !» Elle le voit alors qui s'éloigne, résigné, seul. Si seul, si démuni, si pauvre, qu'elle en est désespérée. Mais puisque c'est lui qui lui fait du mal, il est normal qu'elle se venge. Pourquoi n'est-il pas sa protection, son refuge, celui qui rayonne et qui règne, celui qui donne le pain dont a besoin son cœur? Pourtant, dans le rêve, il pardonne, car il part sans rien dire. Il part et, la tête dans les épaules, il semble beaucoup souffrir. La porte de la chambre s'est ouverte. Pauline a surgi. Elle fait « Oh, oh, ah !» dans ses mains, comme si elle allait vomir. Paulette se jette dans l'escalier, se heurte à Claire. Paulette a 18 ans. « Oh, oh !» Elle regarde sa jeune sœur avec des yeux fous. « Papa est mort !» C'est sorti d'elle comme un ouragan glacé qui s'est jeté sur la petite. La glace de l'ouragan pénètre partout. Claire n'a plus de sang, plus de cerveau, plus de nerfs, plus de muscles. La vie en elle s'est soudain pétrifiée. Ses jambes plient comme du verre se cassent. Elle se retrouve assise, la culotte sur la pierre. Le froid est maintenant dehors et dedans. Paulette continue son chemin avec ses hoquets. Oh, oh, ah! Elle semble en proie à une nécessité d'agir, de faire quelque chose d'important sans doute, dont le sens échappe à Claire. La voilà revenue avec une bassine qui fume un peu, des serviettes. Paulette a le visage qui ruisselle. « Tu ne pleures pas, toi ? » dit-elle en passant. Claire fait corps avec l'escalier. Elle est dure, comme lui. Elle ne comprend pas le sens de cette phrase, ce qu'a voulu dire Paulette. Claire est passée au-delà du domaine des sentiments. Paulette est entrée de nouveau dans la chambre. La porte s'est refermée et Claire, dans sa tête vide, entend un écho qui se répercute. « Tu ne pleures pas, toi !» Elle jaillit comme mue par un ressort. « Cours, cours, cours !» se sauve devant la douleur, jusqu'au fond du jardin. Là, le mur l'arrête. Elle se jette sur lui, plie son bras sur son visage et un chagrin que jamais ne finira commence à sortir d'elle. Devant cet obstacle qui lui offre l'image vertigineuse et cruelle de la solitude prisonnière d'elle-même. « Maman, est-ce que je peux aller en voiture avec papa ?»«
Bien sûr, ma chérie. »«
Je voulais savoir. »
Claire est très inquiète. Maman a donné la permission. C'est un peu comme si elle acceptait que Claire soit coupée en morceaux sur un autel de sacrifice. Claire rejoint son père. Elle lui prend la main.
Il y a un court moment de confiance réciproque, d'acceptation, d'intimité.
La main de Claire s'emboîte bien dans celle de Paul. Claire attend quelque chose, un mot, un regard, un sourire. Quelque chose qui ne vient pas.
L'impression d'être conduite au supplice s'empare à nouveau d'elle, s'accentue. C'est beaucoup plus fort et plus angoissant que quand maman a dit
« Bien sûr, ma chérie ».
Le silence de papa est implacable. Sa main est volontaire, impérieuse. De quel passé primitif surgit pour Claire cette impression d'immolation qui risque d'être son lot. Paul ouvre la portière, la fait monter en voiture avec une légère claque sur le derrière. Elle est toute petite encore, elle n'a que 6 ans. Ses jambes arrivent à peine au plancher de la carrosserie. Paul monte à son tour. Il ne dit toujours rien. Il est absorbé par des boutons, par des manettes. Il pousse et tire. La voiture sent l'essence. Claire aime beaucoup cette odeur. C'est le parfum de l'homme, l'essence, le parfum du père. Papa démarre. On roule. Claire n'ose proférer un son. C'est à papa de parler, de dire où il l'emmène. Mais il garde son secret. Elle se sent en trop. Elle voudrait fondre sur le siège ou disparaître sous la housse. Elle est complètement tendue pour entendre. Seules ses oreilles semblent exister. Mais rien n'arrive qui la rassure. Elle ne perçoit que le bruit du moteur et le sifflement de l'air. C'est fou ce que ça va vite. Papa est sûrement en colère. Peut-être parce qu'elle est allée demander la permission à maman après qu'il lui a dit « Viens avec moi, je t'emmène ». Mais où va-t-il d'abord? Vers quelle destination inconnue l'entraîne-t-il? Il y a des fossés en bordure de route. Claire pense qu'il va jeter la voiture dedans, qu'elle va se retrouver broyée au milieu de la ferraille, avec du sang qui coule de partout et qui s'enfonce dans la terre marron. Glou, glou, glou. Elle est épouvantée. Elle n'ose même pas demander comment font les enfants d'habitude. On arrive bientôt? C'est terrible d'être enfermée dans cette boîte hermétique avec un homme dont on ne sait pas ce qu'il tait, pas ce qu'il pense. On aperçoit maintenant des maisons. Claire respire. C'est la ville. On arrive bientôt ? Se hasarde-t-elle à interroger enfin.
Oui, oui, on arrive.
C'est tout.
Mais c'est mieux que rien.
La voix de papa n'est pas méchante. Il s'arrête devant un magasin. Tu m'attends là. Après un temps interminable, il revient avec un sac dans la main. Il remonte et reprend le trajet en sens inverse vers la maison. Il n'y a plus de raison d'être inquiète. C'est un voyage utilitaire. Mais c'est aussi un moment inutile, passé ensemble, pendant lequel Claire a été en quête d'un mot apaisant qui n'a pas été dit. Claire est à table, seule entre Paul et Maria. Paulette est pensionnaire en ville. Claire souffre avec beaucoup d'applications sur sa cuillerée de soupe. Il ne faut pas que la cuillère déborde, mais il faut aussi que la soupe refroidisse. C'est l'hiver. Maria fait un bon bouillon de poule. Il y a sur le bouillon des taches moirées. Maria appelle ça des yeux. Claire regarde ses yeux qui roulent à droite, à gauche, déplacés par son souffle. Cela l'occupe et l'amuse. Papa et maman parlent au-dessus de sa tête. Elle a 9 ans. Leur conversation l'enveloppe d'une bonne chaleur. Mais elle ne suit pas le sens des mots. Elle est trop absorbée par ce qu'elle observe. Subitement, papa crie. Claire a si peur qu'elle laisse tomber sa cuillère dans l'assiette. Le bouillon l'éclabousse et la brûle. Mais le pire, c'est que Paul a pris la soupière et, vlan, a tout lancé au milieu de la cuisine. C'est une catastrophe qui est arrivée sans prévenir. Claire est comme abrutie sous le choc.
Paul sort après avoir quitté la table. Il claque la porte. Maria se tait. Elle se lève, ramasse les débris de faïence, va chercher une pelle, une balayette. Elle pousse dans la pelle les légumes épars, puis elle passe la serpillière avec beaucoup de soin. Elle est très calme. Elle se rassied et dit tendrement « Mange, ma chérie. » Mais son visage semble vidé de son sang et ses mains tremblent. Claire n'a plus faim du tout. Elle commence à pleurer en silence. Et elle avale autant de larmes que de potage. Elle pense. Je vais partir. Certainement, je ne suis pas leur fille. Si j'étais à eux, ils s'aimeraient. Je suis une enfant trouvée et adoptée. Maman m'a adoptée. C'est pour ça qu'il est toujours furieux. Je vais partir. Il faut que je parte. Elle tourne en rond dans sa tête, qui est devenue une cour pleine de prisonniers à l'heure de la promenade. Une amie de Maria vient de perdre son mari. Elle a deux enfants. Des garçons. La grand-mère a recueilli le plus petit. Maria héberge pour un temps son amie avec le fils aîné. La jeune femme est très malheureuse. Maman dit. C'était un bon ménage. Elle adorait cet homme. Il est mort si brusquement d'une typhoïde insoignable. Elle en était très amoureuse. Il est évident pour Claire qu'entre adorer et être amoureuse se cache une nuance tout à fait intéressante. L'adoration, c'est un soleil qui tourne dans la région de la tête et du cœur. L'amour, c'est une fleur qui prend racine dans la terre, monte entre les jambes et s'épanouit au bas du ventre. Là où est le sexe, cette chose encombrante qu'il faut ignorer, mais qui ne cesse d'être présente. Claire se demande comment la fleur peut s'épanouir dans ce lieu tiède et sombre. Sans doute, le soleil de l'adoration doit y diffuser sa lumière, sans qu'on puisse le voir à travers les vêtements. Claire n'aime pas beaucoup le petit garçon. Il a mauvaise mine. Il est gris comme une ficelle. Et à table, il fait une chose vraiment dégoûtante. Il mastique les morceaux de viande qu'on lui coupe, puis il les crache et les aligne avec ses doigts en petits tas, comme des crottes de poule tout autour de l'assiette. Claire, qui déjà ne supporte pas la viande, ne peut plus en avaler un morceau. « Mange, ma chérie, » dit maman devenue un peu sévère. Mais Claire ouvre des yeux ronds sur les tas crotteux. Elle est fascinée d'une sorte d'horreur et rien ne passe plus. Elle ne pense plus qu'à la crotte des poules. Au bout de 15 jours, l'amie part chez sa mère. Paul a sorti la voiture et va la conduire à la ville où elle prendra le train. Claire monte derrière avec le petit garçon. Il se passe quelque chose de très suspect pendant le trajet. Papa parle avec l'amie de maman et il a une voix très douce. Il a l'air de ne pas vouloir que les enfants derrière entendent. Claire est extrêmement intriguée. La dame, elle aussi, parle assez bas. Que peuvent-ils bien se dire? Et pourquoi papa est-il si gentil? Claire a vu nettement qu'il mettait la main sur le genou de l'ami de maman, qui semble trouver ça tout à fait naturel. C'est incroyable! Papa ne fait jamais ça, maman, et jamais il ne parle autant. Claire est au supplice. Son voisin, le garçon à mine de ficelle, n'arrête pas de se tortiller. Il sera plein de nœuds, ce museau de ficelle-là, en descendant, s'il continue comme ça. Il la dérange énormément, ce forcené. Elle ne peut pas suivre le déroulement des événements sur la banquette avant. Mais il est évident que papa est un traître et l'ami, une victime exposée à la tentation. Claire aime beaucoup cette jeune femme, qui est toujours très douce avec elle. Elle voudrait lui crier dans l'oreille. Méfiez-vous de lui. S'il entre dans votre maison, il cassera vos plats et vos soupières. Il poussera des hurlements. Mais c'est une initiative impossible à prendre. Cela ferait encore un drame. Paul lance de grands adieux à la dame sur le quai de la gare avec ses bras. Quand ils se retrouvent tous les deux dans la voiture, il est de très bonne humeur. Il dit des tas de choses. Que le petit garçon est gentil, que demain il fera beau, qu'il est content de sa voiture. Claire est comme un sac de noix entassées qui frottent les unes contre les autres. « Qu'il n'essaie pas de me mettre la main sur le genou, » pense-t-elle, « ou je crie. Je crie à faire emballer la voiture. Ou bien j'ouvre la portière et je saute dehors. Je me tue. » Mais papa ne s'occupe que de son volant. Ne recevant aucune réponse, il finit par se taire. Il frise sa moustache entre le pouce et l'index en souriant. Et il chante. Claire a 10 ans. Les médecins sont venus à la maison. Ils sont 4. Ils ont pris Maria à part.
Il ne faut plus que votre mari voyage. Il est très malade et nous ne savons pas ce qu'il a. C'est une maladie du sang.
Probablement incurable, madame.
Alors, il doit beaucoup se reposer, ne faire aucun effort.
Claire, pendant ce temps, est plantée devant la cage de ses perruches, près de la fenêtre. Elle les regarde battre des ailes. Mais malgré le bruit qu'elles font, elle a tout entendu.
Maria ne dit pas « mon pauvre Paul ».
Simplement, quand les docteurs partent, deux rides profondes s'inscrivent entre ses sourcils, indiquant un tourment grave. Et papa ne quitte plus son lit. Maman le soigne. Elle travaille, elle fait la cuisine, et 20 fois par jour, quand elle est à la maison, elle monte l'escalier qui va aux chambres. Claire passe devant la porte de son père sur la pointe des pieds. Elle l'imagine dormant sans cesse pour réparer ses forces. Bientôt, il se réveillera et il sera complètement transformé. Il rira tout le temps. Il parlera sans crier. Il ne montrera plus aucun courroux à l'égard du monde et de sa famille. Il ne dira plus « la société est pourrie ». Il laissera Claire grimper sur ses genoux et peigner ses cheveux drus et blancs, comme lorsqu'elle avait 3 ans et qu'elle n'avait encore peur de rien. Peut-être même ses cheveux seront-ils redevenus noirs. Puisque c'est une maladie qui les a décolorés en 8 jours, une autre maladie peut les régénérer. Claire se dit pourtant que ce serait dommage. Son père, avec des cheveux blancs, c'est le père d'aujourd'hui. Mais c'est aussi le père de demain. C'est celui de toujours. Pour toujours. Tout compte fait, il faut qu'il les garde, comme ceux du Père éternel dont parlent les filles qui vont à la messe. Mais, cheveux mis à part, il sera sûrement un autre. Un père nouveau, conforme à ce qu'elle souhaite. Il ne quittera plus la maison. Il en sera le gardien, le protecteur. Il sera guéri de ce qui semble mauvais en lui. Pourtant, ce n'est pas ce qui arrive. Les mois sont interminables. Maman est débordée. La maison est sans dessus-dessous. Le printemps revient et l'été. Paul descend quelquefois maintenant. Il sort de sa chambre. Mais s'il n'est plus en colère, il n'est pas gai. Il a l'air d'un vieillard et oppose au monde un mutisme absolu. Claire a grandi. Elle sent que Maria a terriblement besoin d'elle. Paulette fait des études ailleurs. 2 années déjà. Un matin, Paul est descendu. Il est maigre. Ses vêtements flottent sur un squelette. Il sort au jardin et Claire le voit s'asseoir sur sa balançoire de petite fille où elle aime encore parfois faire le clown, trouver des positions qui mettent son équilibre physique en péril. Paul a les yeux fixes. Il regarde quelque chose devant lui. Il ne bouge pas du tout. Il a passé ses 2 bras de chaque côté des cordes qui tiennent la planche de bois. Ses mains pendent, abandonnées, décharnées, translucides. Ses yeux sont vides. Et pourtant, ils attendent. Oui, oui, ils attendent une réponse. De qui? De quelqu'un que Claire sent très présent, mais qu'elle ne peut pas voir. Elle pense que c'est sûrement la mort. La balançoire oscille doucement. Claire a maintenant 18 ans. Elle sort du théâtre avec une amie. Elles viennent d'assister à Antigone de Sophocle. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un thé? On marche au Luxembourg?
Non, je voudrais rentrer. Je ne me sens pas bien, répond Claire, qui a en effet le visage très pâle.
Antigone, cette jeune révoltée en faveur de l'indépendance de la conscience humaine, cette contestataire qui, tout au long de la pièce, s'est dressée contre le despotisme, l'a absolument bouleversée. Mais pourquoi à ce point? Son amie est heureuse. Elle s'émerveille devant la qualité de la représentation. Elle voit les choses de l'extérieur, très objectivement. Claire n'a pas cessé de souffrir. Il lui semble qu'un crochet hérissé de piques l'a fouillée comme un goupillon à bouteille pendant toute la pièce. C'est un peu anormal tout de même, pense-t-elle. Le sort d'Antigone est certes pitoyable, le dénouement est tragique. Aimon est un amant qui aurait mérité un autre sort, Mais ce n'est pas cela qui a mis Claire dans cet état aigu de révolution intime. Elle le sait. Elle sent qu'elle est incommodée de façon inhabituelle et grave. Elle rentre chez elle et s'allonge. Une semaine plus tôt, le rêve du père mendiant est revenu. C'est un thème qui continue à poursuivre Claire au-delà de l'enfance. Paul était cette fois bien vêtu, très propre. Ses beaux cheveux blancs étaient éclatants, soigneusement coiffés. Il était très digne. Pauvre et digne. Il a dit simplement « Je suis très seule. Je n'ai plus rien ni personne. J'ai besoin de toi. » Et elle a crié « Non, va-t'en! Pourquoi nous as-tu abandonnés? Hors d'ici! Retire-toi !» Elle s'est réveillée sur ce cri. Elle était toute tendue sur le lit, comme fixée par des clous. Elle s'est assise avec brusquerie. Elle était couverte de larmes. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » a-t-elle dit. « Je ne suis pas Jésus. Mon père n'est ni Dieu ni le diable. Je viens de lui parler comme il leur a parlé à l'un et à l'autre. » Elle s'est secouée violemment. Elle a pris une douche. L'eau tiède a calmé son corps. Elle s'est recouchée, mais à l'intérieur, elle souffrait comme une damnée. La cour de la prison était dans son esprit, ainsi que le mur cruel qui limite et enferme. Des mots prisonniers tournaient à n'en plus finir. « Tu ne l'as pas aimé. Tu as détesté ton père !» criaient les mots en faisant la ronde. Tête baissée, les mains derrière le dos, l'un derrière l'autre. Et ce fut elle, soudain, la mendiante, la démunie, la séparée du monde, la perdue à jamais. Claire sait qu'en pensant ainsi, elle se trompe. Elle est sûre que le soleil éblouissant de l'adoration a brillé autrefois, quand, sur les genoux de Paul, elle coiffait avec délices ses cheveux devenus miraculeusement blancs de jeune père, des cheveux que n'avait aucun père de son âge. Elle sait aussi que le silence de Paul, ses colères, ses tristesses, ont porté de rudes coups à cet astre heureux, que celui-ci s'est terni, desséché, qu'il est peu à peu tombé en petits morceaux durs comme des cailloux, pendant que le soleil de Maria s'amplifiait et devenait démesuré. Elle sent que tous ces cailloux morts au fond d'elle empêchent la belle fleur d'amour de prendre racine dans la terre, de s'épanouir là où elle doit. Et elle se sait condamnée à n'être qu'une femme incomplète, anxieuse, qui engendrera des fils qui lui feront peur. Aujourd'hui, durant le spectacle, et malgré sa révolte, Antigone a proféré « Je suis née pour partager l'amour, et non la haine !» Claire a eu alors l'impression d'être poignardée dans son fauteuil. Pourtant, elle avait oublié son rêve. La vie, pendant la semaine, avait agréablement suivi son cours. Le travail, les copains de classe, maman, un amoureux dans le cœur, tout cela était bon et paisible, plein d'espoir et de jeunesse. Il faisait beau. Elle se sentait jolie. Cette phrase au début de la pièce la frappe et elle est submergée de désespoir. Elle se voit encore face au mur, un bras replié sur le visage, prise d'un vertige incurable devant une solitude que rien ne comble. Et des mots tournent emprisonnés. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il mort? Claire, ce soir-là, à l'issue de la journée de théâtre, ne dîne pas. Après une nuit blanche, au petit jour, elle décide. « Ce soir, je relirai Sophocle. » Cela lui semble impérieux, absolument nécessaire. En dépit de ses occupations, les heures se traînent interminables. Luc, qui l'aime, veut la voir à la fin du cours, aller au cinéma. Il faut sortir ensemble. « Non, non, pas aujourd'hui. J'ai une chose importante que je ne peux pas remettre, » lui dit-elle. Et arrive le moment où, seule dans sa chambre, elle attrape le livre. À peine ose-t-elle l'ouvrir. Il renferme un secret, quelque chose de sacré. Peut-être la fin de la douleur. Elle commence à lire. Antigone, où sommes-nous ici? De quel peuple est ce pays? Qui accordera à Édipe, le vagabond, une misérable aumône? Le hasard a ouvert pour elle les pages sur Édipe à Colonne. Ici, nous nous trouvons en un lieu consacré. On ne peut s'y tromper. Il abonde en laurier, en olivier, en vigne. Répond Antigone, qui voit là-bas, derrière des remparts, se dresser une acropole. Elle a donc, sans même le savoir, conduit Œdipe dans la région d'Athènes, jusqu'au lieu où il va, où il doit mourir, qui appartient aux déesses d'effroi, aux filles du sol et de l'ombre, aux Euménides. Elle l'a mené au port et il peut dire soulagé « Je ne bougerai plus de ce coin de terre. » Claire lit avidement. « J'étais inconscient quand j'ai tué, massacré. C'est de plus, sans savoir, que j'en suis venu là. C'est Œdipe qui parle, mais c'est Paul que Claire entend. Œdipe est lui aussi, comme Paul l'est dans ses rêves, un mendiant, couvert de vieilles et horribles crasses. Ses cheveux en désordre flottent à tout vent. Mon père n'a jamais eu une apparence aussi sordide, pense Claire en souriant. Comme on fait un pèlerinage à travers l'inconscient, elle poursuit lentement, attentivement, sa lecture. Et, presque sans qu'elle le sache, en tâtonnant, avec beaucoup d'hésitation, avec une timidité gigantesque, Claire, comme Antigone, tend la main à son père. Il y a une montagne de résistance, de crainte, de souffrance et de pudeur entre elle et lui. Mais cette montagne si dure, Claire la traverse au cœur de la nuit, aidée par Antigone, par Sophocle et son Verbe. L'ombre s'éclaire doucement dans l'esprit de Claire. Elle voit maintenant pour Paul. Elle le guide. Elle ne le juge plus, ni ne le méprise, ni ne lui en veut. Il est l'incarnation de sa propre loi de vie. Il est venu au monde avec une totale ignorance. Il a été pris au piège de la terre, dans des circonstances auxquelles il n'a rien compris et où personne n'a su ou pu l'aider. Œdipe s'est crevé les yeux désespérés de son aveuglement d'homme. Et Claire se souvient de Paul, interrogeant sans mots l'inconnu, le regard fixé sur l'incompréhensible, certain lui aussi d'avoir été abusé, de s'être trompé, d'avoir fait des ravages et de n'avoir rien su déchiffrer. Claire a lu longtemps. L'œil au plafond maintenant, et brouillée de larmes, elle se répète. « Je suis née pour partager l'amour, et non la haine. » La phrase clé du spectacle d'hier. Elle la murmure comme on fait une prière. « Je suis née pour partager l'amour, et non la haine. » Elle redit, et redit encore à mi-voix, pieusement, les mots qui ne font plus aucun mal. Les mots rassurent. Elle sait que dans cette courte phrase essentielle va se trouver pour elle la paix. Elle constate que déjà une délivrance commence à lui être donnée dans cette notion de vaste pardon. Le chagrin sans limite que Paul, l'aveugle, le mendiant, a infligé à la toute petite Claire a été remis dans cette main tendue et secourable d'Antigone. Antigone, la fille parfaite, la soumise à la loi de l'amour filial, la sacrifiée au malheur qui marche vers les siens. Antigone la glorieuse, Antigone l'éclairée. Et en balbutiant, pour partager l'amour, Claire s'endort enfin. La vigne, les oliviers, les lauriers frémissent sous le vent venu de la mer. L'acropole blondit sous le soleil levant. Claire est en Grèce. Elle a pris la main de Luc, qu'il aime et qu'elle aime. « Viens, dit-elle, allons voir le tombeau de mon père dans le jardin sacré des Eunémides. » Et le rêve rejoint la vie de Claire à travers Sophocle, le poète antique, à travers la fable et le mythe qui continuent à faire leur chemin au cours du temps, qui toujours répètent et ramènent les mêmes douleurs. Les mêmes espoirs, les mêmes folies, les mêmes enseignements qui déchirent, les mêmes progrès sur les yeux ouverts. Je vais laisser la place à quelques figures qui ont peuplé ma vie en coulisses. Dans la tragédie, Pierrette à Londéon était vraiment ma Pierrette, et Germaine, dont je vais vous entretenir cette fois, fut encore bien plus ma Germaine au Théâtre Français. J'étais d'ailleurs aussi sa petite Godot. Nous faisions un bon échange d'appropriation mutuelle. Dans « Le placard et la splendeur », j'ai utilisé sans tricherie la première personne. J'ai adoré ma douce, mon encourageante, ma talentueuse et secourable Germaine. Il était légitime que ce fût le « moi-je » qui lui rendit hommage. Elle a accompagné avec une exemplaire constance mes premiers pas dans l'auguste maison. Au théâtre français, l'atmosphère est tendue. Les aînés ne font pas de cadeaux, le répertoire non plus. Et c'est très bien ainsi. Il faut être capable de prendre la relève. Au même titre que la société, au sein de laquelle il est bien périlleux de vivre, ce répertoire est la clé de voûte qui tient l'édifice. Il faut le connaître, s'y plier, savoir le servir et non pas s'en servir. Privauté et injure qu'il ne pardonne jamais. En 1946, je me sentais si terriblement ignorante, malgré mes 7 ans de pratique sur de grandes scènes, que j'abordais les textes en tremblant. Mieux que quiconque, Germaine le savait et s'appliquait à me donner son appui. Elle voulait me sortir de ma position de retrait. Elle avait habillé des triomphants. Il fallait qu'à mon tour, j'en fusse une. Je ne dévoilerai pas le nom de sa compagne. Elle n'était guère connue. Elle est morte, comme je le raconte.